Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Avec Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, permettez-moi évidemment, au nom d'RTL, de vous souhaiter du fond du cœur un joyeux Noël et de très belles fêtes. Cela évidemment malgré les difficultés particulières dues à la pandémie cette année encore. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Père Noël, il est bien passé. Parfois dès hier soir, parfois dans la nuit. En tout cas, cette matinée du 25 est consacrée aux cadeaux, c'est la tradition, notamment les jouets pour les enfants. Nous serons d'ailleurs dans quelques minutes avec Franck Mattet, le porte-parole de Jouet Club, dans cette édition. Et cela pour un premier bilan à chaud de ce Noël 2021. Un Noël qui s'est dérobé au tout dernier moment pour environ un Français sur 100 contraint de s'isoler pour le réveillon après un test positif au Covid. On a connu hier un nouveau record de contamination, 94 000 cas positifs du jamais vu depuis le début de la pandémie. Mais l'isolement, c'est celui également que vivent de plus en plus de personnes en France, notamment les jeunes. 24% de la population, un Français sur 4 est concerné par cet isolement relationnel. Évidemment, à Noël, c'est encore plus douloureux. On en parlera avec la directrice générale de la Fondation de France. En tout cas, la vaccination, pour le rappel notamment, continue de battre son plein. On vaccine donc à Noël aujourd'hui, vous allez le constater. Pas de trêve, ni pour vacciner, ni pour tester. Et on va le voir notamment avec un reportage. Il y a souvent la queue devant les centres de vaccination ou les laboratoires. Dans l'actualité de ce 25 décembre également, le traditionnel message du pape François Urbi et Orbi. C'était il y a quelques minutes, il a évoqué l'Ukraine, mais aussi les tragédies de Syrie et du Yémen. Et puis nous irons à Bagdad dans ce journal, puisque Noël, là-bas, est une courte parenthèse pour les chrétiens d'Irak, souvent persécutés. Dans l'actualité de ce 25 décembre également, le lancement prévu dans moins d'une heure, maintenant à 13h20, de la fusée Ariane, qui doit mettre en orbite le télescope James Webb. Il est en fait le successeur d'Hubble. Il va nous permettre de voir dans le passé, d'observer la naissance des premières galaxies. Mais nous, ici à RTL, on voit dans l'avenir, enfin, à très court terme, c'est-à-dire ce soir. Quel temps pour ce 25 décembre, Anthony Kaczmarek? Dites-nous si ça va rester gris et doux.
Eh bien oui, le cadeau ne vient pas du ciel, avec un ciel totalement couvert sur toute la moitié nord, toute la journée, avec quelques gouttes. Des pluies plus conséquentes arriveront d'ailleurs en fin de journée par la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Ce sera gris et pluvieux aussi dans le sud-est, avec de la neige dans les Alpes des 1800 à 2000 mètres. Et puis on peut compter sur quelques timides éclaircies entre le sud-ouest et le Limousin. Le tout dans une extrême douceur. En revanche, Noël au balcon, sauf à Lille avec 4 petits degrés, mais 9 degrés à Strasbourg, 10 à Paris, 11 à Lyon et La Rochelle, 12 degrés à Brest, 14 à Bordeaux et Marseille, et un incroyable 16 degrés pour Biarritz.
Eh bien qu'ils en profitent bien. Merci beaucoup Anthony.
RTL Midi.
Ah, le 25 décembre au matin, c'est le moment où les parents, comme les enfants d'ailleurs, se retrouvent pour déballer, tester, essayer les cadeaux de Noël. C'est le moment où il faut parfois se transformer en ingénieur en chef pour monter le robot galactique, en traducteur pour comprendre le mode d'emploi. C'est le moment où on se dit « Ah, j'avais pensé à tout, sauf aux piles !» Mais c'est surtout un moment de bonheur inoubliable avec les cris de joie des enfants en bonne sonore. Benjamin Pelsy, vous l'avez constaté, à Ramonville, près de Toulouse, dans une famille de deux enfants, et tout cela au pied du sapin.
Les cadeaux ! Ouvre nos cadeaux !
Le Père Noël vient juste de déposer les paquets au pied du sapin, et déjà, Léa, 3 ans, et Jules, 5 ans, déchirent les papiers cadeaux sans ménagement.
Ouais, Star Wars, j'adore Star Wars !
Ils ne cherchent pas à savoir lequel et pour qui, la répartition, c'est dans un second temps.
Yes, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Des petits Playmobiles pour toi.
Et moi, j'ai eu Star Wars.
Moi, j'ai jamais eu Star Wars comme cadeau.
Autant ils sont très silencieux avant, autant à partir du moment où c'est lancé...
Ah oui, on peut pas les arrêter.
Sébastien, le papa.
Là, il a trouvé des chevaux, là, exactement ce qu'il avait commandé, du Star Wars. Et Léa.
Là, je vois des Playmobil princesses.
Il y a un jeu de nombres, non? Il y a des vêtements. Et il y a ce qu'elle appelle le bleu. C'est un poste de la Reine des Neiges. Parce que la Reine des Neiges, c'est bleu pour elle.
Celui-là, le truc, voilà, il est à moi.
La joie, l'esprit de Noël au pied du sapin. Mais une fois qu'on a ouvert le cadeau et qu'il est en mesure de fonctionner, eh bien évidemment, Benjamin Pelsy, il faut le tester, commencer à jouer.
Oui, c'est d'ailleurs Sébastien qui montre à sa fille comment se servir de son jeu de pêche au poisson magnétique.
Tu peux prendre ta canne à pêche, Léa, et t'essayes de pêcher. Non, tu pêches comme ça, regarde. Voilà, hop. Regarde, j'ai pêché une étoile de mer. À toi. Ah, bravo. Un petit dauphin.
Pendant ce temps, Jules monte son château avec sa mère Yuli.
C'est un château de chevaliers brûlants. Parce qu'il a des petits feux, là.
Et je pense qu'il y en a pour toute la journée.
Maman.
Donc, ils sont beaucoup attendus.
Et l'attente, elle, durera encore un peu pour les parents. Eux n'ont rien trouvé sous le sapin. Ils ont décalé leur Noël au début de l'année pour le faire correspondre avec leurs anniversaires.
Voilà, la joie de Noël pour les enfants, on l'a compris, dans cette famille de Ramonville, près de Toulouse. Le porte-parole de Jouet Club, Franck Maté, est avec nous sur RTL. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans RTL Midi. Alors que ces jouets sont à peine déballés, on peut d'ores et déjà dresser un premier bilan grâce à vous. Alors évidemment, ce Noël, comme celui de l'an dernier, a été un peu perturbé, on l'a beaucoup dit, par l'épidémie de coronavirus. Mais les cadeaux des enfants, c'est sacré. Est-ce que ça veut dire que le Père Noël a été, cette année encore, très généreux ?
Oui, le Père Noël a été généreux. C'est une saison positive qui s'annonce. Il nous reste encore une semaine qui est déterminante, mais on peut déjà dire que c'est une saison positive qui a été marquée d'une part par une rumeur de pénurie dans les magasins, oui, qui n'a pas eu lieu. Des clients qui sont venus plutôt au mois de novembre pour faire leurs achats. Donc un gros mois de novembre pour nous.
Parce que les médias tels que nous d'ailleurs avions relayé... Alors c'était pas d'ailleurs une rumeur, c'était de véritables craintes de votre part d'être en pénurie.
En réalité c'était des décalages de livraison, oui, et qui ont fait dire à certains qu'il en manquait des jouets au démarrage de la saison. Mais nous, chez Jouet Club, on avait anticipé et on s'est retrouvé au mois de septembre avec 20% de stock de plus que l'an dernier, ce qui nous a permis de bien démarrer la saison. Et puis le mois de décembre est resté aussi dynamique, avec une belle fréquentation, ce qui au global fera un bon Noël, un Noël avec beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme aussi. On a vu des clients qui étaient heureux dans les magasins, heureux de refaire Noël en famille, de partager avec leurs enfants bien les jouets qu'ils allaient commander au Père Noël. Parce qu'effectivement, le moment de venir en magasin, c'est aussi un moment pour les parents de découvrir les jouets, de voir comment ils marchent, pour quelles raisons ça plaît aux enfants. Parce que le 25 décembre au matin, les premiers compagnons de jeu des enfants, ce sont souvent les parents.
Oui, et puis parfois, faut monter, hein, faut monter les jouets, c'est pas toujours simple.
Il y a un peu de technicité, en effet.
Des jouets pour les enfants, mais pas seulement, de plus en plus, des jouets pour alors les grands-enfants, les jeunes adultes, dirons-nous.
C'est ça, les ados et les adultes, aujourd'hui, qui sont consommateurs de jeux et de jouets pour eux-mêmes. C'est 20% des ventes aujourd'hui, donc ça représente un jouet sur cinq.
Un jouet sur cinq aujourd'hui est en fait un jouet pour un adulte, pour un jeune adulte.
Voilà, qui va être acheté, utilisé par un adulte, qui peut être offert aussi à un autre adulte. Alors c'est les jeux de société prioritairement, oui, qui représentent la plus grosse catégorie. On a redécouvert avec le Covid l'an dernier eh bien, qu'on pouvait jouer ensemble pour partager du temps, pour sortir des écrans, pour se faire plaisir, pour apprendre, pour être un stratège, plein d'activités possibles par le jeu. Mais c'est aussi la nostalgie avec des figurines de super-héros de notre enfance qui sont toujours les super-héros d'aujourd'hui. Les Pokémon, les Iron Man, les Spider-Man, les Star Wars. Donc on va s'acheter les figurines pour les avoir avec soi dans, ouais, le quotidien ou simplement pour les présenter, ouais, en exposition dans
la déco,
salon.
Simplement, voilà, de la déco, un Spider-Man
c'est
sur
ça,
la cheminée.
C'est la pop culture qui est aujourd'hui, ouais, très présente dans notre quotidien et qui se transmet bien dans le jouet.
Avec un effet quand même, vous disiez pas de pénurie, il y en a eu sur les cartes Pokémon.
Oui, et c'est une année particulière, il y a toujours des ruptures dans le marché du jouet puisqu'on achète entre 6 et 8 mois à l'avance nos stocks, donc on peut pas faire de la commande au dernier moment, à part pour les jouets français. Et effectivement, le phénomène, c'est les cartes Pokémon qui sont très très demandées par les enfants et par les adultes. Et c'est ce qui a créé une rupture prématurée. Mais pour ce qui nous concerne, on en avait encore jusqu'à la semaine dernière.
On entendait tout à l'heure cette famille de Toulousaine avec cette petite fille et la Reine des Neiges. Quels ont été les jeux stars, les jouets stars de ce Noël 2021 ?
En dehors des jeux de société, ce sont les super-héros. Ouais. Pokémon d'abord, Harry Potter, Star Wars et Pat' Patrouille pour les plus jeunes. Et puis ensuite, on a Barbie qui est revenue cette année dans le top 10 de nos ventes. Ça, c'est incroyable.
C'est indémodable. Mais c'est un retour de Barbie, elle avait eu un petit coup de mou.
Oui, mais c'est des cycles dans le jouet en fait, ouais. Donc, mais ça existe depuis plus de 60 ans, donc c'est extraordinaire comme performance. C'est aussi l'année des conteuses, avec notamment l'Uni, qui est fabriquée en France, qui marche très très bien.
Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Alors c'est une conteuse, en fait c'est un boîtier dans lequel vous allez pouvoir sélectionner des éléments, et il y a une histoire qui va être racontée aux enfants. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle tendance qui existe depuis 3 ans maintenant, et c'est là, aujourd'hui c'est pratiquement la deuxième ou troisième meilleure vente en France, ouais. Donc c'est vraiment un phénomène. Et puis les jouets en bois aussi, oui, qui fonctionnent bien, 15% alors, de croissance.
Ça, c'est ça. Parce que, est-ce que le Père Noël devient vert avec, j'allais dire, tout ce qu'on dit autour du réchauffement climatique? Est-ce qu'il distribue plus de jouets en bois, de jouets écolo?
Le Père Noël, en fait, il fait ce que les enfants leur demandent. Hein. Oui. Il est vraiment très généreux et très bienveillant dans ses réponses. Et effectivement, c'est la domination du plastique, parce que le plastique, c'est ce qui permet de reproduire un imaginaire des personnages, des véhicules, des vaisseaux, de la façon la plus réaliste possible, en tout cas réaliste par rapport à l'imaginaire de l'enfant. Mais on a quand même le jouet en bois qui se développe fortement. On a dans les jeux de société beaucoup de cartons qui sont utilisés, et beaucoup de cartons qui sont des cartons recyclés au départ. Et puis, eh bien, on a aussi finalement beaucoup de jouets français ou de jouets européens, parce que là c'est de la proximité, donc c'est moins de transport, donc c'est moins de consommation de carbone, donc il y a un équilibre qui se fait naturellement, mais bien évidemment les enfants, c'est d'abord l'imaginaire qui prime pour eux.
Donc à Noël 2021 réussi. Vous me disiez juste au début de notre entretien que la semaine à venir allait encore être importante. Pourquoi? Pour les retardataires?
Alors c'est à la fois pour les retardataires, pour ceux qui vont faire un deuxième ou un troisième Noël, et puis aussi c'est parce que c'est le moment des étrennes, c'est parce que c'est les vacances, et donc on a encore envie de se faire plaisir.
Merci beaucoup d'être venu ici sur RTL, dans RTL Midi. Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club. Merci beaucoup.
Merci, joyeux Noël.
Alors cette année, il y avait de la neige à la montagne pour l'arrivée du Père Noël. Il a donc pu distribuer les cadeaux également aux vacanciers qui, bien évidemment, doivent skier en respectant les règles sanitaires. Écoutez Fabrice Mielzarek, il est le directeur de l'office de tourisme de Villard-de-Lans.
Je confirme bien aux enfants que le Père Noël est bien arrivé à Villard-de-Lans. Et j'ai même vu certains enfants qui ont rajouté un peu des cadeaux à la liste. Hein. Ils étaient proches de l'oreille du Père Noël et je pense qu'ils ont rajouté pas mal de cadeaux sur leur liste.
Question taux de remplissage, Fabrice Mielzarek. Est-ce que vous attendez du monde? Est-ce que vous en avez déjà, peut-être?
Oui, alors c'est vrai que le calendrier avec un Noël un samedi, c'était un peu compliqué peut-être cette année, mais nous, notre clientèle est surtout Rhône-Alpine, donc on a des arrivées tous les jours. On était à peu près à 50% cette semaine qui vient de s'écouler. Et on va monter en puissance, puisqu'on va monter effectivement à 65 et 80% sur cette fin de semaine. Donc c'est plutôt des taux intéressants. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les arrivées se font tous les jours. Donc c'est aussi intéressant, puisque du coup, on est toujours en alerte.
Qu'en est-il des règles sanitaires?
Écoutez, aujourd'hui, les règles sanitaires sont les mêmes pour toutes les stations françaises. Donc on a besoin effectivement d'un pass sanitaire pour pouvoir skier. Dans le village, le port du masque est fortement conseillé. Moi, j'étais encore hier dans le village et puis je peux vous assurer que la majorité des gens maintenant portent bien le masque. C'est bien ancré, donc ça se passe plutôt pas mal. Alors c'est vrai que sur le domaine nordique, on est également ouvert, comme le Luge Park également aussi.
Voilà, Fabrice Mielzarek, le directeur de l'office de tourisme de Villard-de-Lans, avec Antoine Cavaillerou. Il parlait du port du masque. Eh bien, le préfet de Savoie, lui, a décidé de serrer la vis. Le port du masque est de nouveau obligatoire dès 11 ans dans certaines communes de Savoie, notamment Aix-les-Bains, Chambéry, Albertville. Et dans les 38 stations de ski du département, eh bien, il est désormais interdit de boire de l'alcool sur la voie publique, même du vin chaud. Et cela, dès 16 heures. Il est 12h43. On va marquer une courte pause et dans un instant, aller voir les vaccinés de Noël.
RTL Midi, avec Vincent Parizeau.
Le variant Omicron s'est donc invité dans la dernière ligne droite avant Noël. Résultat des tests positifs en cascade depuis plusieurs jours. 94 000 hier. Ça veut dire que un Français sur 100 donc a dû passer Noël à l'isolement. L'exécutif surveille l'évolution comme le lait sur le feu. Lundi, Conseil des ministres pour accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Projet de loi examiné mercredi à l'Assemblée, le 5 janvier au Sénat. Son entrée en vigueur est prévue le 15 janvier. C'est un texte qui prévoit notamment que pour l'accès à certains lieux, non précisés pour l'instant, on sait que ce ne sera pas les bars ou les restaurants, mais dans certains lieux, il faudra présenter le pass vaccinal, mais aussi un test négatif récent. Par ailleurs, le ministère de la Santé confirme que le délai pour la dose de rappel est maintenant ramené à 4 mois. Et dans ce contexte, eh bien, les vaccinodromes ne désemplissent pas, même aujourd'hui, jour de Noël. Bonjour Benjamin Boukrich.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Montrouge, au sud de Paris, dans un centre Croix-Rouge. Et pour certains, eh bien, pas de paquet cadeau, évidemment, pour le vaccin, mais c'est tout comme.
Oui, oui, ici, il n'y a pas de bonnet de Noël ni de longue barbe blanche, mais des doses de Pfizer et de Moderna. Ce centre est vraiment bien rempli. Il y a beaucoup d'enfants entre 5 et 11 ans, puisqu'ils sont éligibles à leur première dose depuis quelques jours. Apolline, elle, a 10 ans. Elle a ouvert ses cadeaux de Noël hier soir, mais il en restait un, bien caché par sa maman Virginie, et elle doit le recevoir aujourd'hui.
Quand ma maman m'a dit, j'ai un peu rigolé, parce que elle m'a dit que c'était un cadeau de Noël, mais j'ai pas trop cru.
Exactement. On s'est réveillés toutes les deux, tout le monde dormait, on est venu faire le vaccin, et puis on retrouve tout le reste de la famille ce midi.
À côté d'elle, il y a une bonne vingtaine de volontaires de la Croix-Rouge qui savent faire, et ils n'auront pas vraiment le temps de souffler, car même si c'est un jour férié, il y a du monde, beaucoup d'enfants donc, mais aussi des personnes présentes pour leur dose de rappel. Stéphane Casati est le responsable des opérations d'urgence à la Croix-Rouge. C'est lui le Père Noël du centre aujourd'hui.
On va être à un peu plus de la moitié du nombre de personnes vaccinées par rapport à un jour normal, ce qui est un bon chiffre pour un 25 décembre, lendemain de fête. Aujourd'hui, on a à peu près 471 rendez-vous programmés sur la journée, dont une cinquantaine d'enfants, à savoir les 50 créneaux qui étaient ouverts pour les 6-11 ans qui ont été pris d'assaut.
Le centre sera ouvert jusqu'à 18h ce soir. Et pour tenir le coup, les volontaires de la Croix-Rouge ont droit à un bon repas de Noël concocté par un traiteur, s'il vous plaît. Ils passent à table d'ici une demi-heure.
Eh bien, souhaitez-leur bon appétit de notre part. Merci beaucoup. Benjamin Boucriche qui était en direct du centre Croix-Rouge de Montrouge. Les infirmiers qui vaccinent ne sont d'ailleurs pas les seuls parmi les personnels de santé à être sur le pont la nuit dernière pour le réveillon ou aujourd'hui pour le jour de Noël. Les conditions particulières liées à l'explosion du variant Omicron ont rendu les conditions de travail encore plus difficiles pour les personnels soignants des hôpitaux. Écoutez ainsi ce médecin réanimateur de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il était ce matin sur RTL à l'issue de sa garde de nuit.
En région lyonnaise, la plupart des réanimations sont complètement pleines. Nous, notre réanimation est pleine ce matin et c'est rempli sur la nuit. Donc on essaye de faire des sorties pour accueillir les nouveaux patients en urgence. Mais c'est tout le temps dans des conditions qui sont très compliquées. On risque bientôt d'être un peu à la limite de ce qu'on peut faire, sachant que par ailleurs, on a à nouveau dû déprogrammer énormément d'interventions, ce qui recrée à nouveau une perte de chance pour tous les malades qui auraient dû être opérés.
Il y a eu des petites images, des moments forts cette nuit pour vous ?
Écoutez, dans le service, il y avait malgré toute cette période qui a été difficile et qui a été affligeante en effet pour tout le monde depuis maintenant plus d'un an et demi, quand même une bonne ambiance. Les équipes sont globalement soudées, donc c'est toujours agréable de travailler ensemble et ça c'est plutôt une bonne chose.
Voilà, ce médecin réanimateur à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, Franck Bidard, il était ce matin sur RTL avec Christophe Pacaud. Donc Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, présidera un conseil de défense lundi pour revoir les règles d'isolement parce que l'avalanche des cas contacts menace nos équilibres, notamment nos équilibres économiques. Il y a déjà des trains annulés en région, de nombreux spectacles reportés. Le trafic aérien est également impacté. 4500 vols ont été annulés dans le monde pour ce week-end. 4500, ces compagnies qui annulent comme Delta Airlines, United ou encore Lufthansa expliquent avoir épuisé toutes les options et toutes les ressources de remplacement avant d'en arriver à cette extrémité.
RTL Midi, Vincent Parisot.
Invité d'RTL Midi, Axelle Davzac, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de la Fondation de France, merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de Noël sur RTL, au lendemain d'un réveillon que beaucoup d'entre nous ont passé seul, et les chiffres que vous publiez d'ailleurs sont assez édifiants. Près d'un Français sur quatre en situation d'isolement relationnel. J'imagine tout d'abord que ce chiffre, il a considérablement progressé avec la pandémie.
C'est malheureusement la statistique et la mauvaise surprise, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on a eue quand on a publié. C'est un baromètre que la Fondation de France publie depuis 10 ans.
Chaque année.
Absolument, chaque année. Et la solitude a quasiment doublé en 2020. On comprend bien pourquoi, en raison du contexte sanitaire, des confinements. Et cette crise a vraiment joué un rôle de déclencheur d'isolement pour aujourd'hui, donc près de 25% de la population française.
Ça va même d'ailleurs plus loin, parce qu'effectivement, 25%, un Français sur quatre, c'est énorme en situation d'isolement relationnel. Mais 30% des Français n'ont qu'un seul réseau de sociabilité, ce qui est extrêmement faible.
Mais ce qui montre que ces personnes sont très fragiles. C'est-à-dire qu'il suffit que ce seul réseau qui reste se distendent ou disparaissent pour des conditions, des aléas de la vie. Et alors, on bascule dans la solitude.
Isolement, dans la solitude. Et on constate aussi, avec ces chiffres spectaculaires, malheureusement, que les jeunes sont particulièrement touchés.
Ça, c'est une grande source de tristesse, parce qu'aujourd'hui, il y a 21% des jeunes qui sont isolés de manière objective. C'est-à-dire qu'on a mesuré le nombre de réseaux qu'ils avaient ou pas à leur disposition.
Plus de 20%.
Et plus de 20% alors qu'ils étaient 9% encore l'année d'avant.
C'est une progression absolument dramatique. Hein. Et par exemple, on constate qu'ils sont jeunes, hein, par exemple. Entre 15 et 30 ans, 33% des 15-30 ans ont le sentiment de se sentir seuls tous les jours ou souvent. C'est énorme.
Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est jeune, on le sait bien, on est dans la période où on construit sa vie. Or, tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans des difficultés financières, hein, puisqu'ils n'avaient plus les petits boulots qu'ils faisaient en raison des confinements, et aussi face, tout seuls face à leur écran pour faire des études, pour ceux qui faisaient des études, ou au chômage technique, puisque beaucoup d'entreprises ont fermé, ça a été absolument terrible. Et du coup, une incapacité pour eux aussi à se projeter. Ils se sont retrouvés face à un mur.
Donc un mal-être, donc des conséquences psychiques, des effets aussi sur les études, sur les résultats scolaires, sur les études universitaires.
Alors c'est la grosse difficulté de la solitude, c'est, j'allais dire, quand on bascule dans la solitude, c'est quelque chose de très brutal. Ouais. Et en revanche, pour en sortir, le travail à faire est extrêmement long. C'est ce qu'on fait à la Fondation de France, mais c'est un travail qui est très très long.
Alors justement, vous parlez de vos actions à la Fondation de France, parce que cette solitude, elle fait mal au quotidien. Elle fait encore plus mal, évidemment, un soir de fête comme celui d'hier. Comme chaque année, vous avez soutenu des réveillons de la solidarité un peu partout. Hein.
Absolument. La Fondation de France a créé les réveillons de la solidarité il y a une quinzaine d'années, avec l'idée de se dire que la solitude est terrible au quotidien, mais elle est encore plus insupportable dans ces périodes de fête. Et donc ces réveillons de la solidarité, ce sont des initiatives d'associations, de collectifs d'habitants partout dans le pays pour, en cette période de fin d'année, arriver à créer du lien entre les personnes isolées, les personnes précaires, les personnes sans domicile fixe et les habitants d'un quartier.
Mmh. Un mot quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes. Ces jeunes, ils manient l'outil numérique très bien. Cette solitude, elle ne peut pas être compensée en partie quand même par les réseaux sociaux, par toutes les relations qu'on peut entretenir via Internet et via le numérique.
C'est un des enseignements hein, de cette étude solitude, c'est qu'on pouvait penser que sur cette plus jeune génération, les outils numériques allaient compenser, ce qui est plus difficile quand on est plus âgé. Oui. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes le disent très bien, quand on a, j'allais dire, des vrais réseaux en face à face qui existent, alors le numérique, oui, fonctionne très bien. En revanche, quand on n'a plus que ça, c'est un substitut qui ne crée pas le lien et qui ne génère pas cette chaleur qu'on a humaine entre nous, entre êtres humains, quand on se voit en vrai.
Cet isolement relationnel, il a donc énormément progressé sur un an, hein, il a doublé. On peut espérer que lorsqu'on va enfin en sortir, parce qu'on va en sortir à un moment, les choses se remettent en place, ou vous craignez que ce ne soit long et lent, parce que comme vous le disiez, déconstruire une vie sociale, ça va très vite, c'est très compliqué de la reconstruire.
Ce sera très long, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est isolé, les dégâts psychologiques sont faits, et donc toutes ces personnes isolées, il faut d'abord aller à leur rencontre. Il y a un très joli projet, notamment auprès des jeunes, hein, qui est la Maison des Adolescents dans les Ardennes, qui, ouais, justement, va à la rencontre de ces jeunes pour d'abord recréer le lien, les remettre en action, leur redonner le goût de faire des choses avec d'autres.
Il va falloir aller les chercher, ces jeunes isolés. C'est un petit peu ce que vous nous dites ce matin sur RTL, ce matin de Noël. Merci beaucoup d'être venu. Axelle Davzac, directrice générale de la Fondation de France. Merci.
Merci à vous.
RTL Midi, Vincent Parisot.
Et dans un instant, Noël à Bagdad et le télescope qui va tout changer. Décollage imminent. A tout de suite.
RTL Midi, avec Vincent Parisot.
Emmanuel Macron a adressé hier un message de Noël aux forces armées. Le président aurait dû se rendre au Mali hein, auprès des soldats de la force Barkhane, mais son déplacement a été annulé en raison de la crise sanitaire. Éric Zemmour et Marine Le Pen ont également diffusé des messages à l'occasion de Noël, des messages là beaucoup plus politiques, marqués par de nombreuses références à la chrétienté. Message particulièrement appuyé d'ailleurs pour Éric Zemmour, je le cite, « Noël célèbre la naissance d'une civilisation, la nôtre, qui doit être considérée comme la plus évoluée, la plus sophistiquée, la plus créative et la plus tolérante que le monde n'ait jamais connue. Des messages qui ont été ponctués pour ces deux personnalités de soutien aux chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak par exemple, qui ne sont plus que 400 000 contre 1,5 million au début des années 2000, victimes de la guerre bien évidemment, mais aussi de la pression et des persécutions des groupes djihadistes. Noël est donc pour eux une courte parenthèse. Reportage à Bagdad, Anne-Sophie Lemoff.
L'heure est aux célébrations de Noël en la cathédrale Saint-Joseph de Karada, au cœur de Bagdad. Message de paix et d'espoir en ces temps de crise pour une poignée de fidèles aux yeux tournés vers l'Occident. Les rangs sont clairsemés, signe de départ qui ne s'arrête pas, déplore le frère Ziyad, un dominicain irakien.
On craint que le christianisme disparaisse. L'hémorragie de l'exode continue. Il n'y a pas une semaine où on entend parler d'une famille qui fait ses valises pour partir.
Des fêtes de Noël altérées par une instabilité chronique, comme l'explique Anan, une consacrée de 36 ans, professeure d'anglais à l'université.
Ici, les choses sont imprévisibles. On sait bien que rien n'est stable. On se dit que quelque chose pourrait bien arriver. C'est triste à dire, mais on s'y est habitué.
Une insécurité à laquelle ne s'habitue pas le frère Ziyad.
Et il est temps, avec les festivités de Noël, de se mettre la main dans la main et de se relancer. Nos ennemis ne veulent pas que le pays se relève.
Pas question pour lui de quitter l'Irak.
Reportage donc à Bagdad, Anne-Sophie Lemoff. Et puis le pape François a prononcé tout à l'heure son message de Noël, suivi de sa bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, depuis la place Saint-Pierre de Rome. Il a rappelé les tragédies immenses et oubliées qui se jouent aujourd'hui en Syrie et au Yémen, en proie à des conflits qui ont fait de nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés. Il a aussi évoqué la situation en Ukraine en lançant une mise en garde contre, je le cite, les métastases d'un conflit gangréné. Deux drames la nuit dernière en France. Tout d'abord à Nice, un homme de 24 ans a été tué par balle dans le quartier sensible de Las Planas. Les faits sont produits peu après minuit. L'auteur du tir a pris la fuite avec des complices à bord d'une voiture retrouvée à Cagnes-sur-Mer. Bien sûr, ces hommes sont actuellement recherchés. La victime n'était pas connue sur le plan judiciaire. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée. Et puis à Tours, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un homme qui avait été pris en charge à l'hôpital pour de très graves blessures à l'arme blanche. En fait, son corps a été transpercé de part en part, sans doute par un sabre ou par une baïonnette, selon les premiers éléments de l'enquête. La victime a été transportée devant cet hôpital par un homme qui est actuellement en garde à vue avec deux autres personnes. Et puis, ce sera l'événement de ce 25 décembre, le télescope spatial qui va sans doute révolutionner l'astronomie tout autant que son prédécesseur Hubble, qui est opérationnel, lui, depuis 1990. 31 ans de mission, donc, pour Hubble, à 600 km au-dessus de nos têtes. Et donc, il va passer le relais à James Webb, qui, lui, sera à 1,5 million de kilomètres en orbite autour du Soleil. Donc là, vous l'avez compris, on va changer de dimension. Et ce nouveau télescope va nous permettre de découvrir des objets célestes inconnus et même de remonter le passé. Écoutez Marcus Killer Patide, il est le chef du département Opération Science à l'Agence Spatiale Européenne.
On parle du plus grand télescope et du plus puissant télescope qu'on a jamais lancé dans l'espace. C'est une des machines, peut-être la machine la plus compliquée que les humains ont jamais construite. Petite comparaison entre Hubble et Webb. Hubble nous orbite à 600 km au-dessus de la Terre, donc très proche au fait, 600 km, hein, pour pouvoir y retourner et changer des instruments et faire de la maintenance comme si c'était un télescope terrestre, en fait. Et un miroir qui était grand à l'époque, 2,40 m. Donc Webb, c'est un miroir de 6,50 m, donc on peut voir plus loin. Voir plus loin, ça veut aussi dire voir jusqu'au fin fond de l'univers, donc vraiment au début de la création de la matière dans l'univers. Autre chose aussi, c'est qu'on va l'envoyer beaucoup plus loin, on l'envoie à 1,5 million de kilomètres, donc c'est vraiment super exceptionnel.
Voilà, décollage prévu donc dans 20 minutes, 13h20. Et évidemment, on vous en parlera dans les flashs sur RTL. Et ce soir à 18h, l'heure pour laquelle je vous retrouverai pour RTL Soir. Dans un instant sur RTL, ce sera Entrée dans l'Histoire avec Laurent Deutsch. Mais tout de suite, le rappel de l'info, parce qu'il est 13h.